Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à tous.
Il est 6h40 et nous vous retrouvons sur France Culture pour les enjeux internationaux. Ce matin Julie, retour sur les élections à Taïwan.
Oui, la présidentielle de samedi qui a reconduit au pouvoir celle qui avait déjà remporté l'élection de 2016, Tsai Ing-wen, candidate du DPP, le parti démocrate progressiste, qui refuse le projet de Chine unique défendu par Pékin, laquelle considère toujours Taïwan comme l'une de ses provinces. Le DPP défend une identité taïwanaise nécessairement contraire aux intérêts ou à la vision du parti communiste chinois, puisque je vous le rappelle, Taïwan a été en 49 le refuge des nationalistes face aux communistes. Alors depuis les dernières élections, Pékin œuvrait à ce que le parti rival de la présidente Tsai, le Kuomintang, reprenne la majorité à l'Assemblée nationale taïwanaise. En vain donc. Les résultats de samedi sont à mettre en regard de ceux obtenus par les candidats de l'opposition à Hong Kong aux élections locales de la fin novembre. Pékin donc de plus en plus contesté, que ce soit dans sa région administrative spéciale, c'est le statut de Hong Kong, ou dans ce qu'elle considère donc toujours comme sa province, Taïwan. Tsai Ing-wen, elle, propose que le dialogue reprenne. Bonjour Stéphane Corcuff.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sinologue et enseignant-chercheur à Sciences Po Lyon. Vous êtes chercheur associé au Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine. Alors la Chine, Pékin, a exercé avant l'élection, même bien avant, des mois avant, différentes sortes de pressions, que ce soit des déclarations martiales. Nous ne promettons pas de renoncer au recours à la force, a-t-on par exemple entendu, ou que ce soit pour reprocher à la présidente Tsai son soutien aux manifestants de Hong Kong. Alors Tsai Ing-wen a-t-elle gagné malgré la Chine ou grâce à elle, parce que les pressions auraient été contre-productives ?
C'est un petit peu les deux. Elle a gagné en dépit de la Chine et grâce à la Chine, mais je pense qu'elle a aussi gagné sans la Chine. C'est-à-dire que les élections sont le résultat d'une dynamique interne à cette société, à ce pays qu'est Taïwan et qui, depuis maintenant pas mal d'années, bâtit sa démocratie. Et évidemment, il y a un facteur externe qui est la Chine et qui joue à la fois comme repoussoir de tous les candidats, disons, qui pourraient lui être favorables, et puis comme aussi un appel à protéger la souveraineté du régime, hein, qui est incarné par tous les candidats qui refusent les pressions chinoises.
Pour gagner sans la Chine, encore faut-il réussir à maîtriser notamment le flux d'informations relativement biaisé qui est diffusé sur tous les écrans, dans les rues, partout, les lieux publics. Il y a des grands écrans qui rediffusent des télés qui, la plupart du temps, sont financés par la Chine, donc diffuse des informations chinoises. Comment Taïwan a pu maîtriser ce flux-là, a pu faire face aux cyberattaques et a pu répondre aux déclarations, alors je le disais tout à l'heure, martiales, belliqueuses de la Chine à son encontre?
Alors à ce sujet, justement, Taïwan se trouve en fait l'un des pays les plus menacés directement par ces pays libéraux qui manipulent l'information. Hein. Et du coup, Taïwan est l'un des pays les plus les plus efficaces à mettre en place un nouveau système qui va certainement faire parler de lui à l'étranger. Un système centralisé par le gouvernement, plusieurs agences gouvernementales, ministères gouvernementaux et la société publique civile pour contrer ces fake news dans la mesure où elles sont effectivement, comme vous l'avez dit, très présentes. Que beaucoup de chaînes de télévision sont financées indirectement par la Chine et que Taïwan est une démocratie. Donc quelque part, on a là un pays frontière et Taïwan invente un système pour survivre, tout simplement, qui a montré son efficacité lors de ces élections, puisqu'en dépit de tout ce que la Chine a pu faire, non seulement sa candidate la plus détestée a été élue, mais ça a été Tsai Ing-wen le meilleur président élu depuis le lancement de la démocratie à Taïwan en 96.
Présidente détestée par la Chine, mais qui n'était pas non plus spécialement appréciée des Taïwanais il y a encore un an. En tout cas, son parti allait d'échec en échec. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour qu'elle puisse redresser la barre à ce point?
Je suis pas tout à fait d'accord, à savoir que quand même elle a baissé dans les sondages sur un mandat de 4 ans, et c'était là il y a un an, c'était au bout de 3 ans de mandat et de 3 ans de réformes profondes nécessaires qui ont mis à dos un certain nombre de perdants dans cette réforme, dont effectivement des privilégiés qui étaient dans des situations de rente tout à fait inacceptables.
C'est-à-dire?
Et qui ont, par exemple, des fonctionnaires d'État qui avaient le droit, depuis le Kuomintang, de placer leurs économies avec un taux de, d'intérêt à 18%.
Alors le Kuomintang, c'était le parti rival, le parti adverse qui, lui, soutient des relations très développées avec la Chine.
Voilà, qui, disons, ne soutient pas la réunification avec la Chine, ce serait invendable sur le marché électoral à Taïwan, mais pour se démarquer du projet, disons, indépendantiste ou de construction de la société nationale taïwanaise par le parti au pouvoir, celui de Tsai Ing-wen, disons, est coincé dans un entre-deux, n'ayant pas vraiment fait d'adjournamento idéologique depuis Chiang Kai-shek, et qui est cet entre-deux développer des bonnes relations avec la Chine. C'est un pari qu'a essayé le président précédent Ma Ying-jeou, qui a échoué. Le pari, c'est de dire développons des bonnes relations économiques avec la Chine, dans l'espoir que nous puissions y gagner sur le plan économique et qu'un jour où la Chine sera démocratique, elle évitera de nous envahir et que tout sera dans un avenir heureux d'une réunification pacifique. Évidemment, c'est complètement théorique et ça ne fonctionne pas du tout.
Est-ce que c'est aussi une histoire de génération ? Est-ce que le parti Kuomintang, donc, dont les liens avec la Chine sont connus, a fait, vous parlez d'un aggiornamento, mais à la faveur d'un renouvellement de génération ? Est-ce que ce sont les jeunes du Kuomintang aujourd'hui qui disent on ne peut pas du tout parler de réunification avec la Chine ? Vous avez dit, Stéphane Korkuff, ça ne passerait pas. Et puis le régime un pays, deux systèmes qui a cours à Hong Kong, ça ne passera jamais non plus. Est-ce que ce sont les jeunes du Kuomintang qui disent ça ?
Oui, alors c'est difficile de répondre à votre question, néanmoins, elle est absolument centrale. Je pense que le Kuomintang perd les jeunes. Il les a relativement motivés sous la présidence, au début de la présidence de Ma Ying-jeou, donc il y a déjà de cela 8 ans. Mais en fait, là, il les a complètement perdus. C'est-à-dire que les jeunes ont voté visiblement de manière massive, alors qu'ils étaient peu présents dans les élections avant, et ils ont beaucoup voté pour Tsai Ing-wen. Les jeunes aujourd'hui, et le Kuomintang essaye d'en envoyer en Chine pour voir la Chine et se faire un point de vue et essayer de renouer culturellement avec ce pays que le Kuomintang considère comme la mère patrie, ils reviennent et disent on n'a rien à voir avec ce pays, c'est
ils
pas
reviennent.
Le nôtre.
Il reste pas peu de jeunes qui partent travailler en Chine.
Qui partent travailler ou on les envoie, le Kuomintang coopère avec la Chine pour trouver des moyens de financer des voyages pour des jeunes Taïwanais en Chine. Ils reviennent et ils disent que ce n'est pas leur pays. Après, c'est effectivement une question de génération. C'est-à-dire que il y a des générations beaucoup plus anciennes au Kuomintang, qui est un parti de vieux aujourd'hui. Hein. Quand on voit les manifestations de soutien au parti, les hiérarques du parti, c'est vraiment des gens plus âgés, beaucoup plus âgés que pour le DPP. Eh bien, ces gens-là, en fait, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas fait leur aggiornamento et qu'ils sont sur la ligne d'il y a 50 ans de Chiang Kai-shek. C'est en fait un parti d'intérêt. Et ces gens-là se disent notre intérêt c'est l'économie et l'économie ça passe par des liens avec la Chine. C'est complètement simpliste puisque la présidente actuelle a lancé avec succès, un relatif succès, une politique de développement de l'économie vers les pays d'Asie du Sud-Est. La Chine n'est pas le seul horizon économique, mais ces gens-là au Kuomintang ont inventé cette théorie comme quoi l'économie chinoise était le seul avenir possible pour la Chine, en fait pour calquer ça sur quoi ? Sur leur cadre idéologique de la Chine comme mère patrie que, pour le coup, ils ont hérité de l'époque de Chiang Kai-shek.
Alors le candidat du Kuomintang est régulièrement présenté, et c'est un fait, comme le candidat de la Chine, plus ou moins Tsai Ing-wen, elle n'est jamais critiquée comme la candidate de Washington. La question d'une certaine forme d'ingérence américaine, si décrit ailleurs, n'est jamais remise en cause à Taïwan.
Si, effectivement, les Taïwanais, quand ils font un petit peu de géopolitique dans leur tête, ils savent que, en gros, l'avenir de Taïwan, sur un plan géopolitique, est dans les mains de Washington et de Pékin. Et peut-être que les élections de samedi a changé quelque chose à cela, à savoir que, je pense que c'est une élection historique au sens où, comme je le disais tout à l'heure, c'est la meilleure, la présidente la plus légitime de l'histoire des démocratiques de Taïwan en termes de vote. 8 millions de voix à Taïwan, on n'imaginait pas que ce soit possible. Et du coup, elle a une autorité naturelle et qui vient d'être confirmée. Rappelons ce fameux coup de fil de Donald Trump lors de son élection à Tsai Ing-wen, là on a eu un remerciement officiel, des félicitations officielle de la part du vice-président américain. Il n'est pas exclu que Donald Trump le fasse dans les jours qui viennent. Et là, on a manifestement un acteur qui compte. Et je voudrais dire que il y a quelque chose qui joue vraiment en faveur de Taïwan aujourd'hui. C'est, enfin, beaucoup de facteurs, en fait. Et notamment l'un des principaux qui est que l'image de la Chine se dégrade beaucoup. Le pouvoir de Xi Jinping est loin d'être aussi assuré qu'on le pense. Les critiques qui sont formulées à son égard, autant en dehors de la Chine qu'à l'intérieur, sont de plus en plus marquées. Ce qui est peu étonnant d'ailleurs quand on voit le degré de d'autoritarisme qu'il pratique. Et puis parce que la guerre commerciale sino-américaine profite à Taïwan. Et de tout cela, j'ai envie de conclure que dans un monde aujourd'hui où la désinformation, la guerre cyber devient un facteur structurant et extrêmement dangereux sur un plan global, eh bien Taïwan, c'est la démocratie frontière la plus menacée par le seul pays qui serait éventuellement à même, la Chine bien entendu, hein, de produire un modèle totalement illibéral qui puisse être exporté dans le monde. Donc Taïwan devient un enjeu considérable, à mon avis il l'a toujours été, mais il l'est aujourd'hui plus que jamais, et aux commandes pour 4 ans encore de cette île à la présidence et avec une majorité, on a une présidente qui est rationnelle, qui est modérée, qui n'est pas provocatrice et qui a toutes les cartes en main.
Si je vous demande aussi si le soutien affiché des États-Unis vis-à-vis de cette présidente n'a pas posé de problème ou posé question au sein des électeurs de l'électorat taïwanais, c'est aussi parce que quelques jours avant l'élection a été votée une loi dite anti-infiltration qui interdit d'élire ou en tout cas de permettre à un candidat qui fera de la propagande ou sera payé par une entité étrangère de se présenter à une élection. Donc entité étrangère, a priori c'est la Chine qui est visée en tout cas dans cette loi-là. Est-ce que ça coupe d'avance l'herbe sous le pied de n'importe quel candidat du Kuomintang? Je veux dire, quelle importance donner à cette loi?
C'est difficile de le dire aujourd'hui, puisqu'effectivement, alors la Chine est explicitement visée, comme vous l'avez dit, et si on réfléchit à tous les canaux secondaires mis en place par le Kuomintang pour travailler avec le Parti communiste en Chine, effectivement, là, on se dit qu'ils vont plus pouvoir faire grand-chose. Reste encore à pouvoir prouver quels sont les mécanismes en place, les modes de financement, etc. Il était urgent que cette loi soit votée. Il était un petit peu malheureux qu'elle le soit juste avant les élections, puisqu'effectivement, ben, comme vous l'avez dit, un certain nombre de gens y ont vu une manipulation du gouvernement sans réaliser forcément qu'elle était un bouclier nécessaire pour Taïwan. Et puis, évidemment, comme elle institue un mécanisme de contrôle par l'État, on a voulu aussi, mais ça c'est un petit peu le jeu politique et les critiques politiciennes, y voir le danger d'un État un petit peu trop présent. Les mêmes critiques ont été faites pour les mécanismes mis en place pour lutter contre la désinformation et les fake news. Mais tout cela, je pense, va se tasser. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'après cette nouvelle défaite du Kuomintang, il me semble que le parti d'opposition historique, le parti nationaliste historique à Taïwan, est en état d'électro d'encéphalogramme plat. C'est vraiment très étonnant, mais là, il survit localement par quelques élus qui ont pu jouer de leurs relations local pour être élu au Parlement, mais sur le plan national, le projet du Kuomintang est complètement vide.
Donc la position de la présidente Tsai, comme on l'appelle à Taïwan, c'est quoi aujourd'hui? Parce qu'on dit elle est sur une ligne pro-indépendantiste, simplement elle ne demande pas explicitement l'indépendance. Est-ce que les événements à Hong Kong, est-ce que les derniers développements, les déclarations belliqueuses de la Chine à son endroit pour réintégrer Taïwan dans son giron, est-ce que ça peut modifier la position de Taïwan vis-à-vis de la Chine?
Juste une précision, le mot indépendantisme de Taïwan est une invention politique qui date du début des années 50 par le Parti communiste, le Parti nationaliste, pour des raisons différentes mais avec la même idée, c'est-à-dire de nier le fait que Taïwan ne soit pas une partie historique de la Chine comme il le présente. En fait, il n'y a pas à proclamer d'indépendance de Taïwan puisqu'elle est déjà indépendante en tant que République de Chine. Alors c'est très compliqué, je fais un petit peu simple, mais aujourd'hui, les indépendantistes sont ceux qui prônent la nation taïwanaise et qui, dans l'absolu ou dans l'idéal, chercherait ou espérerait qu'un jour, la République de Chine qui se réduit à Taïwan soit appelée, disons, République de Taïwan, par exemple. Mais personne n'a à proclamer cette indépendance parce que la République de Chine est indépendante et souveraine en droit international. Donc l'appeler indépendantiste, c'est un petit peu exagéré. Alors pour revenir au cœur de la question...
Elle est indépendante et souveraine, mais elle n'est pas reconnue. Toujours.
Enfin, alors ça dépend par qui. C'est-à-dire qu'elle est reconnue par peu de pays, mais reconnaissance par un autre pays, on n'a pas besoin d'être reconnu par un pays pour être de jure un État indépendant.
Et notamment Taïwan est souvent représenté dans des conférences internationales par l'avatar de la ministre de la communication Audrey Tang, puisque les communications digitales, enfin les nouvelles technologies sont très très présentes à Taïwan. Et donc voilà, c'est ce que dit souvent Taïwan, c'est que elle se moque d'être reconnue ou pas par des organisations internationales. Elle peut déjà être dans le monde entier grâce à cet avatar et à ses réunions. Stéphane Corcuff, la Chine a-t-elle besoin de Taïwan d'une certaine manière, toujours, parce que quand Pékin menace Taïwan d'une intervention, on peut aussi se dire que Taïwan dispose d'un savoir-faire dans les high-tech, les digitech comme on dit, dont la Chine a besoin pour ses nouvelles routes de la soie. Je pense aux usines TSMC, leader mondial des matériaux semi-conducteurs. Bon, elles sont sur le sol taïwanais, ces usines de ce groupe.
Oui, mais je pense que la véritable raison pour laquelle la Chine n'a pas encore attaqué Taïwan, c'est que la situation géopolitique est beaucoup trop compliquée pour qu'elle le fasse, et ça n'a guère à voir, je pense, avec l'économie.
Et vous vouliez élargir justement pour cette dernière minute, vous vouliez élargir sur le reste du monde. Finalement, d'après vous, l'enjeu n'est pas que les relations Taïwan-Chine, c'est bien au-delà.
Oui, je pense qu'effectivement, même si l'île de Taïwan est assez petite avec ses 23 millions d'habitants, une partie de l'avenir du monde s'y joue parce que c'est une frontière entre des modèles politiques et internationaux dont la Chine présente cet exemple de régime illibéral, et que Taïwan est juste en face, est le pays le plus menacé.
Merci beaucoup Stéphane Corcuff d'avoir été avec nous. Merci d'être venu de Lyon pour rejoindre nos studios.